Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
On your marks. Set.
À vos marques, prêts, partez. Dans 5 mois, Paris accueillera les JO. Et bonne nouvelle, le village olympique est déjà prêt.
Nos athlètes vont pouvoir passer les Jeux dans les meilleures conditions. On va accueillir le monde entier ici grâce à vous. Et collectivement, on est tous en train de participer à l'aventure d'un siècle.
Jeudi 29 février, le président de la République Emmanuel Macron a inauguré le village olympique qui sera basé à Saint-Denis. Un village qui verra défiler plus de 30 000 athlètes lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Un village qui a vocation à rester. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Deuxième épisode, en deux parties, de notre série spéciale consacrée aux Jeux Olympiques 2024.
Les Jeux Olympiques de Paris approchent à grands pas et c'est en grande pompe qu'Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le village qui va accueillir les athlètes du monde entier. Et pas n'importe quel village. Un confort hors norme et le plus grand restaurant du monde attendent les sportifs.
C'est déjà la première performance des Jeux Olympiques. Ses concepteurs n'auront certes pas de médaille d'or, mais ils ont réussi à rendre dans les temps les clés du village olympique au président de la République. Le défi était de taille, dans un quartier défavorisé de la banlieue parisienne, Saint-Denis, et dans un contexte de hausse des prix des matières premières et de raréfaction de la main-d'œuvre. Bonjour Marion Kindermans.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste aux Échos et vous avez suivi les aventures de la construction de ce village olympique. On a parlé d'un projet hors norme, de plus grand chantier de France, à raison.
Ah oui, c'est certainement le plus grand de France en site urbain, en monocyte, voire d'Europe. Ça, je crois qu'en tout cas, eux le disent. C'est un chantier qui aligne tous les records, on va dire. D'abord par la taille, hein. C'est 52 hectares sur 3 communes de la Seine-Saint-Denis. Donc, je vais les citer, Saint-Denis, Saint-Ouen et l'Île-Saint-Denis. C'est l'équivalent de 70 terrains de foot, à peu près. Et donc, ce village accueillera les 14 250 athlètes olympiques et leur staff. Et ensuite, il y aura les 9 000 athlètes paralympiques. Tous les chiffres donnés sont absolument faramineux. C'est 330 000 mètres carrés, sortie de terre en un temps record. C'est 82 bâtiments dessinés par 41 architectes, dont Dominique Perrault, qu'on peut citer, parce que c'est lui qui avait dessiné le plan guide en 2019. C'est une vraie petite ville olympique, là où il y a 6 ans, il n'y avait qu'une friche industrielle. On peut citer aussi en nombre d'emplois, 3 500 employés du BTP qui ont travaillé au plus haut pic de l'activité. Alors, moi, j'y suis allée à plusieurs reprises. Le résultat est assez bluffant. Et il y a eu certaines critiques sur le village olympique. On dit que c'est des immeubles avec des barres HLM. Enfin, c'est surtout l'opposition qui s'est prononcée, qui a critiqué l'aspect du village. Mais grosso modo, il y a eu quand même une vraie patte architecturale, des vrais efforts. Les couleurs sont variées, de l'orange, du jaune, du vert. Il y a une vraie qualité des matériaux. Des espaces verts, puis c'est en bord de Seine, toutes les chambres n'ont pas vue sur la Seine, mais c'est quand même une situation assez exceptionnelle.
Le chantier a été lancé il y a 3 ans maintenant, est-ce qu'il est terminé ?
Le chantier est terminé, il a été terminé dans les temps, à la fin décembre 2023. Tout est sorti de terre, tous les immeubles sont sortis de terre, les espaces verts sont achevés. On va maintenant évoquer la Solideo, c'est elle qui a été à la manœuvre, c'est l'établissement public chargé de la livraison de tous les ouvrages olympiques. Donc la Solideo a fait sa part, mais ce n'est pas pour autant que les choses sont terminées, parce qu'il reste maintenant à l'aménager. La Solideo a passé les clés au comité d'organisation des Jeux Olympiques, présidé par Tony Estanguet. Il en a récupéré les clés le 29 février et c'est maintenant à lui de se mettre à la tâche. Il n'y a pas de temps à perdre, Il n'a plus que 4 mois pour aménager le site avant l'arrivée des athlètes. Les athlètes arrivent à partir du 18 juillet. Et d'ici là, il y a à peu près 1 000 000 de personnes qui vont s'atteler à finaliser ce village avant que tous les athlètes arrivent. Il faut mettre en place la signalétique, il faut installer le Wi-Fi dans les chambres, il faut installer le mobilier. 14 250 lits, 14 250 tables de chevet, des dressings, des étendoirs. Il y aura un petit salon, un espace commun, il faut aménager les canapés, etc. Il faut aussi aménager les rez-de-chaussée des immeubles qui accueilleront les espaces pour les délégations. Alors, ils vont les mettre après à leur couleur, à leur sauce, etc. Il faut aménager aussi les espaces de service, parce qu'il y a beaucoup de services, centre de fitness, laverie. Et j'ajoute la gare routière, qui est située tout à proximité du village. Il y a 55 quais de bus, et c'est là où, en fait, d'où partiront et arriveront les athlètes en bus pour aller sur les sites de compétition à l'heure.
En voiture, tout le monde!
Vous persistez à vouloir mettre votre plan à exécution.
Oui, tout est organisé, tout est fin prêt.
Pas de retard pour la Solidéo, les délais ont été tenus. C'est l'un des premiers exploits de ces JO alors que le BTP est parfois connu pour ses retards.
Alors ça, effectivement, de l'avis de tous, c'est une prouesse. C'est peut-être la plus grande prouesse, c'est d'arriver à mener et achever ce chantier en 6 ans. En tout et pour tout, il aura duré 6 ans. Grosso modo, 3 ans pour les études, l'acquisition des terrains, etc. Et 3 ans pour la construction pure et dure. Alors, les études ont duré un petit peu plus longtemps que dans un chantier classique parce qu'il fallait parer à tous les risques. Et puis, il faut quand même ajouter qu'on ne partait pas d'une page complètement blanche. Les élus avaient déjà mené des opérations. En tout cas, un début d'aménagement sur ces friches, ils l'avaient déjà identifié. Ils voulaient en faire un projet urbain. Mais en gros, et ça vraiment tout le monde s'accorde là-dessus, c'est que ça aurait dû prendre en fait 15 à 20 ans, là où avec la magie des JO, on peut dire ça comme ça, on a tout bouclé en 6 ans.
Oh, tu fais de la magie. Voyons ça.
Soleil, jonquille et mimosa. Que ce gros vilain rat en jaune soit colorié de la tête aux pieds.
Alors, ça s'est pas fait grâce à que la magie des JO, on va dire. Et il y a eu la loi olympique de 2018 qui a permis de créer, en fait, un droit de l'urbanisme vraiment sur mesure. L'objectif, c'était d'assouplir et de simplifier les règles habituelles d'urbanisme. Alors, il faut savoir que c'est pas la France qui a eu l'idée de faire cette loi partie de rien, mais c'était une condition vraiment sine qua non du CIO qui impose globalement à tous les pays d'adapter l'arsenal législatif pour être vraiment dans les temps dans la construction. Cette loi, elle a mis en place quelques mesures d'accélération. Il y a par exemple le procédé d'expropriation d'urgence pour acheter les parcelles au plus vite. La mise en place d'un recours à la consultation électronique qui a fait gagner grosso modo plus de 6 mois. Et un permis par exemple à double destination. Alors ça, ce permis à double destination, c'est un permis de construire qui permettait d'englober en même temps la phase jeu et la phase héritage. La phase héritage, c'est ce qui va être transformé en logement plus tard. L'idée, c'était de faciliter les étapes administratives et de permettre que les recours, s'il y a des recours, soient purgés en une seule fois. Donc évidemment, tout ça, c'est de gagner du temps. Et puis, il y a quand même un autre aspect dans ces mesures. L'État a simplifié les litiges aussi contre les permis de construire et il a supprimé en fait l'étape du tribunal administratif pour que le jugement aille directement à la Cour administrative d'appel de Paris. Évidemment, une capacité à aller beaucoup plus vite dans la résolution des litiges. Voilà. Mais aujourd'hui, on peut signaler que maintenant que ce chantier est terminé, certains le voient comme un modèle et se demandent si on ne devrait pas le dupliquer pour accélérer notamment la construction, parce qu'on est bien sûr dans la crise de logement, qu'il manque des logements, notamment en Île-de-France. Voilà, alors la question, c'est est-ce qu'on peut reproduire ce modèle? Bon, il y a quand même eu un effet JO qui a fait que tout le monde s'est mobilisé, l'État, les élus, enfin, c'est une mobilisation exceptionnelle. Est-ce qu'on va la retrouver dans d'autres chantiers plus classiques? On n'en est pas sûr.
Le résultat est d'autant plus étonnant que Solidéo avait choisi aussi de ne pas travailler seulement avec les grands noms du bâtiment en France.
Oui, alors c'est exact. Ça faisait partie de la feuille de route du départ, de la candidature de Paris. C'était ce qu'on appelle la fameuse charte sociale, qui est entre autres coprésidée par Bernard Thibault, l'ancien secrétaire général de la CGT, qui est membre du comité donc, d'organisation des JO. On peut souligner en passant que c'est quand même une première dans l'histoire des JO. Donc Paris a mis en place ce modèle pionnier, on va dire, qui associe des organisations syndicales au sein du conseil d'administration du COJO. Et en fait, donc derrière ces grands groupes du BTP qui ont raflé les gros chantiers de gros œuvres, on peut les citer, Icade, Vinci, Nexity, Eiffage, Pichet-Legendre. On remarque qu'il n'y a pas Bouygues, mais Bouygues va se rattraper après parce qu'il aura remporté, il a remporté celui de l'Arena Porte de la Chapelle. Donc, il n'a pas, pas tout perdu. Et derrière ces gros, il y a de nombreuses petites entreprises qui ont participé au chantier. La feuille de route, c'était des objectifs très, très précis en termes de participation des petites entreprises. 25% du montant des marchés devait aller à des PME, des TPE et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. En termes d'insertion aussi, 10% des heures travaillées devaient être réservées pour des personnes éloignées de l'emploi. En comparaison, c'est 5% par exemple pour le Grand Paris Express. Donc, des objectifs quand même assez hauts. Et les résultats, il faut le reconnaître, sont à la hauteur, puisque dans le village des athlètes, il y a eu à peu près 1360 TPE-PME, 80 structures de l'ESS sur les 1750 entreprises qui ont œuvré sur le chantier au total. C'est à peu près 35% en gros des montants qui sont allés TPE, PME et ESS. Pour l'insertion, on est aussi un peu dans les ordres de grandeur qui ont dépassé les objectifs. L'objectif, c'était 1,3 million d'heures d'insertion. On en est à 1,5 million. Ça représente, si on parle en personnes, c'est encore plus parlant. Donc, c'est à peu près 1900 à 2000 personnes qui sont concernées. Et la grande majorité vient de la Seine-Saint-Denis.
Le premier enjeu, le plus important, c'est de continuer les dynamiques urbaines qui sont à Saint-Ouen ici, à Saint-Denis et sur l'île Saint-Denis. Comme vous nous l'aviez demandé, on a fait du village olympiste non seulement une vitrine, mais surtout un manifeste. Un manifeste de ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui en France pour répondre à quelques grandes questions urbaines du XXIe siècle.
Le 29 février, Emmanuel Macron a inauguré le village en présence de nombreux ministres, mais aussi d'élus locaux, dont la maire de Paris et la présidente de la région Île-de-France, en présence aussi des camarades de l'AFP. Il a aussi rencontré le grand architecte de ce chantier. Qui est-il ?
Alors, il s'agit de Nicolas Ferrand, qui est, il est vrai, nettement moins connu et nettement moins mis en lumière que Tony Estanguet, qui est à la tête de Paris 2024. Mais voilà, on peut dire que Nicolas Ferrand, c'est le grand chef d'orchestre de ce chantier. Bon, c'était l'opportunité de sa vie. Il le dit lui-même. Hein. Et je le cite, quand je l'ai rencontré, il dit « j'étais au bon endroit, au bon moment ». C'est un peu l'homme qu'on n'avait pas vu venir, on va dire. Il a 51 ans aujourd'hui. Il est diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées. Ça, c'est un passage dont il est très, très fier parce que c'est vraiment un passionné des ponts. Il est capable de vous en parler pendant des heures. Et on voit bien, il a les yeux qui pétillent quand il parle de tout ce qui a été réalisé, notamment des ponts dans les chantiers olympiques. Et il est passé aussi par les MIT de Boston. Et ensuite, il a mené une carrière de haut fonctionnaire. Il est passé par les cabinets ministériels de Gilles de Robien et de Dominique Perben au début des années 2000. Et puis ensuite, il va passer dans les établissements publics d'aménagement. Avant les JO, il dirigeait l'aménagement de Marne-la-Vallée, tout ce qui est autour du Disneyland, donc c'était un gros défi aussi. Alors, c'est monsieur 100 000 volts, hein, parce qu'il est très, très énergique. Il est toujours, d'un optimisme assez incroyable. Toutes les conférences de presse, etc., c'est vraiment quelqu'un qui a mené la bataille de ce chantier. Alors, il a été beaucoup moins visible que Tony Estanguet, mais en même temps, il n'aime pas trop la lumière, donc ça l'arrange bien. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas trop mis en avant dans cette aventure, mais tout le monde s'accorde à dire qu'en tout cas, il a vraiment relevé le défi. Ah, il faut le suivre, hein, parce qu'il mène vraiment ses troupes au même rythme que lui, c'est-à-dire qu'il y a un train d'enfer. Pour l'anecdote, il avait, par exemple, mis en place une horloge qui décomptait les jours jusqu'au jeu, dans ses bureaux, mais aussi dans les bureaux de tous ses collaborateurs. Hein. Tout le monde devait être... à chaque début de réunion, il y avait « on en est à J-, etc. Donc voilà.
La sécurité sociale, tout est assuré, sauf la pendule. Ça, on risque pas de nous la voler, le personnel a les yeux constamment fixés dessus.
Et tout le monde avait l'œil sur la pendule, pour reprendre cette blague bien connue de Coluche. Mais la Solideo était loin de cette image un peu plan-plan.
La Solideo, c'est vraiment une structure qui a marché en mode start-up. C'est complètement différent de Paris 2024. Paris 2024, ils sont bientôt 4000. Ils sont dans un immeuble flambant neuf à Saint-Denis. La Solideo, c'est une petite équipe de 150 personnes, pas plus, des ingénieurs, des gens très qualifiés dans l'urbanisme, et qui fonctionnent avec cette petite équipe dans des locaux assez modestes, en fait, voilà, dans Paris. Et pour l'anecdote, je signale quand même qu'on appelait Nicolas Ferrand épervier tenace chez les scouts. C'est lui qui le raconte. Et c'est pas pour rien.
L'épervier qui a une bonne vision hein, d'ensemble, une très bonne vue en général,
en
comme
plus,
oiseau.
Hein.
Qu'est-ce qu'on trouvera dans ce village olympique ?
Alors, ce village olympique, ça va être une vraie petite ville pas que des logements. Une petite ville en même temps qui sera fermée au public, hein, puisque pour des raisons de sécurité évidentes, quand les athlètes y seront, personne à part eux ne pourront y entrer, les sportifs et puis quelques accrédités triés sur le volet. Mais c'est vraiment une ville qui va être fermée sur elle-même et qui va fourmiller d'activités, parce que non seulement il y a les 7200 chambres, mais il y aura aussi des salles de sport, un restaurant gigantesque, la cantine des athlètes, des food trucks, une mairie. Alors là, c'est très, très symbolique, mais il y a quand même une mairie. Et dans les éditions précédentes, il y avait même un maire qui était nommé. Mais là, Paris 2024 a décidé que c'était un peu désuet, donc finalement, il n'y aura pas de maire. Il y a un bureau de poste, il y a un centre médical pour prendre soin, évidemment, des athlètes, des laveries, une supérette Carrefour, même un lieu de prière qui est dédié aux cinq religions. Un salon de coiffure, et puis un café quand même, un lieu de vie, même s'il faut quand même le préciser, il n'y aura aucun alcool servi dans le village. Et puis, on peut peut-être dire que le seul endroit où le public pourra déambuler, c'est sur la place olympique, avec une rampe hélicoïdale, qui rappelle un peu l'anneau olympique. Et là, ça sera l'endroit où en fait, les athlètes seront là, pourront déambuler, et puis nous, on pourra aussi, le public pourra aussi y aller. Voilà.
Peut-être la chance de rencontrer quelques-unes des stars hein, de ces JO. Plus de 14 000 lits, vous les avez testés ?
Alors malheureusement, je n'ai pas eu cette chance de tester les lits. Mais c'est vrai qu'ils ont fait couler beaucoup d'encre. Notamment parce que le sommier est en carton recyclé. Il est très solide, hein. Mais c'est en carton recyclé. Il est fabriqué en fait par la même entreprise japonaise Airwave qui avait réalisé déjà les lits pour les Jeux de Tokyo. Donc, ce n'est pas totalement nouveau. Sauf que là, la production a été en partie faite en France, dans une usine dans le Loiret. Et puis, qu'ils ont amélioré un peu le processus. Alors, certains athlètes, d'ailleurs, l'avaient baptisé avec humour un lit anti-sexe, car bon, on se doute qu'ils ne voulaient pas trop...
Pourtant, c'est une préoccupation importante des sportifs, d'après ce que j'ai lu. Hein.
Et puis alors, les matelas, aussi c'est intéressant, bah, c'est assez confortable de ce que j'ai entendu dire, ils peuvent s'adapter. Les athlètes seront en fait scannés au début sur leur poids, leur morphologie, etc. Et ensuite, on leur recommandera l'épaisseur, il y a trois épaisseurs possibles, ils pourront choisir celle qu'ils veulent. Voilà. Et puis il y a aussi la couette, alors la couette elle est assez rigolote, il y a un côté pour les Jeux Olympiques et un côté pour les Paralympiques, et c'est très généreux, les athlètes pourront partir avec.
La cantine sera gérée par Sodexo. C'est aussi une sacrée machinerie à mettre en place.
Ah oui, là aussi, ben, on est dans le gigantisme. Hein. La cantine, elle est installée dans la nef de la Cité du Cinéma, hein, cette fameuse Cité du Cinéma créée par Luc Besson. Alors, pas moins de 3200 places assises, 40 000 repas servis chaque jour. Elle sera ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, l'idée, c'est de soigner, évidemment, les athlètes aux petits oignons. Hein. Donc, à peu près 550 recettes différentes sont en train d'être mises en place pour s'adapter aux goûts et aux besoins de chacun en fonction des disciplines olympiques. Enfin, tout ça est très, très pensé. Il y a trois grands chefs qui ont été sollicités aussi pour concevoir des recettes 3 étoiles. Ça sera en série limitée. Hein. Ce n'est pas au quotidien des athlètes, mais il y a quand même des menus un peu plus haut de gamme. Alors, si on reste toujours dans les chiffres gigantesques, c'est 3 équipes de 200 cuisiniers, autant de personnes pour gérer et livrer les produits, plus de 500 serveurs. Alors, Sodexo, sous là, évidemment, la houlette de Paris 2024, s'est mis des objectifs forts en termes de circuits courts. Donc, 25% des produits doivent provenir de moins de 250 km. Voilà. Bon, et puis, il y aura un fournil qui sera sur place et qui fournira près de 40 000 pains.
Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pains à la fois.
Marion, les délais ont été tenus. Qu'en est-il du budget alors que le coût des matières premières a fortement augmenté depuis 2022?
Oui, alors c'est vrai que la Solideo, elle a eu à affronter plusieurs tempêtes et globalement, les budgets ont été tenus. Alors, elle est quand même passée par la crise du Covid qui a retardé les chantiers un peu partout, donc il a fallu rattraper les chantiers ensuite. La guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement, l'inflation... Et d'ailleurs, Nicolas Ferrand le dit, cet éternel optimiste, le seul moment où il dit qu'il a eu un doute, c'est lorsque la Russie a envahi l'Ukraine et que toutes les chaînes de livraison étaient perturbées en mars 2022. Et là, il a vraiment cru que les matériaux n'arriveraient pas à temps. Ça a été le seul moment, tel qu'il le dit, d'inquiétude. Mais les délais ont été tenus, comme on l'a dit, mais aussi le budget. Le village en fait, olympique, il a coûté 2 milliards d'euros. C'est quand même quasiment la moitié du budget de la Solideo, qui a par ailleurs en charge tous les autres ouvrages olympiques. Sur les 2 milliards d'euros, 600 proviennent d'argent public et le reste est payé en fait par les promoteurs privés, les gros groupes de BTP. Alors l'inflation, elle a un petit peu pesé, mais on n'a pas les chiffres sur le village olympique. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le budget global de la Solideo, 4,5 milliards à peu près, il y a eu 150 millions d'euros supplémentaires qui ont été dus à l'inflation. Voilà. Alors si on compare quand même avec Londres, parce que si on veut pouvoir mesurer, le village olympique à Londres avait fait exploser le budget des JO, et ce n'est pas le cas pour celui de la France. C'est vraiment salué partout, je crois que c'est assez objectif.
Merci Marion Kindermans, journaliste au service Région des Échos. Une petite pause et on revient dans un deuxième épisode consacré au village olympique, un village conçu aussi pour l'après-JO. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.